Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93. Québec. Le FM 93 vous présente Du M le Midi. Actualité, entrevue, débat. Du M le Midi.
Avec Éric Duhem.
Bon vendredi, Québec. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Encore une belle journée où il fait pas trop froid. Une belle journée de janvier comme on les aime. Coudonc, le mois de janvier achève. Il reste juste quelques jours. Puis finalement, ça n'a pas été si pire. On a eu deux, trois petites vagues de journées de froid. Mais de façon générale, on a été quand même relativement gâtés. Il me semble que la normale saisonnière, on est un peu plus chaud qu'à l'habitude. En tout cas, je sais pas si c'est réchauffement climatique, mais si c'est le cas, on en prendra encore une couple de degrés si ça vous dérange pas. Ma journée a bizarrement commencé aujourd'hui. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, c'est rare que ça m'arrive, là, parce que je me souviens rarement de mes rêves. T'sais, on rêve souvent, mais on s'en souvient pas tout le temps. Mais je me suis réveillé en sursaut parce que je venais de rêver que j'avais un accident. Puis, comme c'est souvent le cas dans des rêves, t'sais, ça a niqué une tête, là. J'étais dans ma voiture, je roulais à reculons. Il y a quelqu'un qui a fait exprès pour me bloquer. Et j'étais pas capable de freiner. J'avais plus de frein, ou les freins ne fonctionnaient pas, ou je trouvais pas la pédale, ou je pesais sur l'accélérateur plutôt que de peser sur le frein. Je sais pas. Toujours est-il que je suis rentré dans le char, et là, quand je suis sorti de la voiture, j'étais pas sur une route, j'étais dans une maison. Puis là, le couple m'accusait d'être là parce que je voulais voler. Écoute, ça avait niqué une tête. Là, je me suis réveillé, puis ma journée a commencé un peu bizarre. Tu sais, quand tu te réveilles, un mauvais rêve, là, l'impression que tu te réveilles puis t'es arc, la journée commence là, puis même si c'est pas vrai, puis là un moment donné, tu finis par te réveiller puis t'es sorti de ta bulle là, et tu réalises que c'est complètement loufoque, pis ça tient pas debout cette histoire là. Mais c'est pas grave, on dirait que c'est comme si ça commençait par une mauvaise nouvelle. Fait que je sais pas, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Je sais pas ce que ça veut dire. J'interprète pas nécessairement mes rêves là. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça veut dire quelque chose, mais disons que ça m'a levé du mauvais pied. Je vais juste vous dire ça. Et je voulais commencer aussi l'émission en vous parlant de la vidéo qui fait jaser aujourd'hui. Vous n'avez peut-être entendu parler au moment où il est maintenant, parce que ça a quand même sorti hier en fin d'après-midi. Il y a une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube pendant une heure ou deux sur la chaîne Jean Charest. C'était une nouvelle chaîne pour supposément, on pense, partir sa course à la direction du Parti conservateur. On va écouter ce que Jean Charest a à dire, parce qu'il en a fait deux. Il y en a une en anglais, évidemment, on va faire entendre celle en français. Et après, je vais vous dire ce que j'en pense, puis je vais vous demander, vous aussi, ce que vous en pensez.
La course au leadership du Parti conservateur est maintenant lancée. Et le choix que nous ferons, nous, les militants, les militantes du Parti, sera important, pas uniquement pour le Parti, mais aussi pour l'avenir du Canada. Ce sera l'occasion pour vous de m'entendre, mais ce sera aussi l'occasion pour vous de prendre la parole. Et j'aurai l'occasion, moi, de voyager à travers le Canada pour vous rencontrer, pour me familiariser avec les enjeux de chacune des régions du pays et d'offrir une vision sur l'avenir à la fois de notre parti, mais surtout sur l'avenir du Canada. Le choix que nous ferons, c'est un choix qui déterminera si nous allons, oui ou non, gagner les prochaines élections générales. Je vous invite à m'accompagner et je vous invite surtout à me rencontrer lors de cet exercice démocratique qui se fera entre nous, les militants et militantes du Parti conservateur du Canada.
D'abord, je vais y aller sur deux, trois affaires par rapport à cette vidéo-là avant de vous parler de la stratégie et de prendre un pas de recul. Juste là, sur la vidéo comme telle, j'associerais ça un peu à la vidéo de Stéphane Dion qui s'était complètement gouré il y a quelques années, là. C'était vraiment un flop. Je veux dire, Jean Charest est trop blanc, avec ses cheveux blancs. Ça fait pas très beau, là. Honnêtement, regardez ça, là. Deuxièmement, son ton est monocorde. Vous venez de l'entendre, là. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'émotion dans cette vidéo-là. Troisièmement, il n'y a pas de contenu. On va faire le tour du Canada, puis on va apprendre à se connaître, puis... Il y a zéro contenu, là. Il nous dit pas qu'il y a une vision, il nous dit rien de ça. Il y a un logo avec un slogan qui est QQ, c'est Charest 2020. Avec le 20 dans un format, puis l'autre 20 d'un autre format, mais on comprend que c'est en 2020, là. Ça a l'air fait par un étudiant là, sur un projet de cégep. Puis après ça, il dit « nous, les militants ». Il parle de « nous, les militants du Parti conservateur du Canada ». C'est parce que Jean Charest a déchiré sa carte de membre du Parti conservateur il y a 22 ans. Il s'en est racheté une il y a moins d'un mois. Fait qu'en termes de militantisme au Parti conservateur, on s'entend-tu que M. Charest, nous, les militants, on... C'est parce que vous êtes le dernier qui est rentré dans le parti, c'est 200 000 ou à peu près, là? Ça tient pas debout, cette affaire-là? Bon, ça, c'est la vidéo comme telle. Maintenant, je veux vous parler de la stratégie derrière ça. Je sais pas si je suis machiavélique ou paranoïaque, mais je crois zéro que c'est un accident, ce qui s'est passé hier, puis que c'est un membre de l'entourage de Jean Charest qui a fait une erreur. Pourquoi ils ont mis cette vidéo-là en ligne? D'ailleurs, c'est très habile, hein? Tu crées un faux compte Jean Charest qui va se présenter au leadership conservateur alors que tu sais qu'il se présente pas. Tu mets une fausse vidéo qu'il a faite où il dit qu'il va faire le tour du Canada alors qu'il fera pas le tour de rien parce qu'on sait tous qu'il y va pas. Puis ça fait longtemps qu'on le sait même. Certains d'entre nous, moi j'ai écrit là-dessus dans Urbania il y a quoi, 8-9 jours? Puis là, hier, tout d'un coup, ils mettent ça en ligne. Puis comme par hasard, il y a des journalistes qui s'en rendent compte que c'est en ligne. Pensez-vous vraiment qu'il y a des journalistes qui sont dans le bureau, que 24 heures par jour, ils googlent pour voir si Jean Charest a mis quelque chose en ligne alors qu'il est même plus en politique puis qu'il vient d'annoncer qu'il ira pas puis qu'il reviendra pas? Comment ça se fait qu'il y a des médias qui savaient qu'il y avait une vidéo de Jean Charest qui circulait? Là, je vais partir une hypothèse. Et si c'était planifié? Et si quelqu'un avait dit, garde, on va la mettre en ligne, on va la retirer une heure plus tard, ça va faire encore plus crédible que c'est nous autres parce qu'on va la retirer et les gens vont penser qu'on a vraiment fait une erreur. Ça va faire jaser en masse. Ça va amener l'attention ailleurs. Parce que je suis de ceux qui pensent depuis le début que c'était ça le but. Que c'était de dire, on veut pas que... Comment je dirais ça? On veut pas que l'attention soit sur autre chose. On veut montrer que Jean Charest, il n'y a rien à se reprocher, qu'il est blanc comme neige et que c'est temps pour lui de revenir en politique, puis c'est la preuve ultime. Puis là, je ne veux pas rentrer dans des scénarios paranoïaques, là, mais mettons qu'un jour, Jean Charest, là, il est à bout.com de l'UPAC, puis il est écœuré qu'à toutes les deux semaines, il y a des policiers qui coulent l'information dans les médias, puis Québécois prend ça, puis fait des lunes avec ça, puis qu'on laisse sous-entendre qu'il y a de la collusion, de la corruption, puis de la fraude, puis que là, il y a encore l'enquête qui se déroule, puis qu'un jour, ils vont déposer des accusations contre lui. S'il est vraiment écœuré de faire miner sa réputation, est-ce que ça peut l'aider d'avoir un dossier où il prouve qu'il était vraiment intéressé à devenir chef du Parti conservateur du Canada? Parce qu'une vidéo comme ça, c'est pas la preuve multipliée par 100 qu'il était prêt à y aller? Je sais pas. Je sais pas comment on en arrive là, mais je ne crois pas que cette vidéo-là s'est ramassée par erreur hier sur les réseaux sociaux. Fait que, garde, à chacun d'y aller de sa propre hypothèse, pensez ce que vous voulez, mais moi, j'achète pas ça. Je crois pas à l'erreur. C'est trop gros. Cela étant dit, la course à la chefferie du Parti conservateur, pour une quatrième journée, hier, un quatrième candidat ou candidate a annoncé qu'il y va pas. Après Gérard Deltel, après Jean Charest, après Rona Ambrose, ça a été au tour hier de Pierre Poilievre de lancer la serviette. Vous le savez, on y a parlé la semaine passée en ondes, Pierre Poilievre. C'est un député de la région d'Ottawa, né en Alberta, d'un père francophone. On dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Marianne québécoise, jeune, 40 ans. Il a bien répondu à nos questions. Moi, j'ai été très impressionné de l'entrevue qu'il nous a donnée la semaine dernière, que vous pouvez consulter d'ailleurs sur fm93.com, ceux qui ne l'ont pas entendu. Essayez de comprendre comment ça se fait aujourd'hui qu'il renonce. Le gars, il était déjà parti, il avait déjà une organisation, il avait déjà commencé à faire des entrevues. Je me demande... Qu'est-ce qui s'est passé? La raison qu'il a donnée sur sa page Facebook, c'est qu'il veut se consacrer à sa famille. Puis je le crois, là, tu sais, on peut, tous les individus, il y a bien du monde qui veulent se consacrer à leur famille, là. Mais il n'a pas appris qu'il y avait un enfant d'un an dans la nuit de mercredi à jeudi, là. J'ai l'impression qu'il y avait-tu, il y avait de quoi, là? Il y a de quoi qui s'est passé? Il y avait-tu un squelette dans son placard? Puis si oui, c'était quoi? Est-ce que c'est parce qu'il a été... Moi, je le connais un peu, Pierre Poilievre. J'ai travaillé avec lui à Ottawa à une certaine époque, là. C'est un gars qui est très intense dans ce qu'il pense. C'est un gars qui va à fond. C'est un gars qui, des fois, quand il fonce, ça se peut qu'il pile ses orteils de quelqu'un. Est-ce que c'est des gens dans la fonction publique à Ottawa qui avaient quelque chose contre lui puis qui le menaçaient? C'est une hypothèse. Y avait-il un scandale de mœurs? Y avait-il une affaire de MeToo en arrière de ça? C'est une autre hypothèse. Mais de toute évidence, puis j'ai quasiment peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait chanter présentement? Ça m'a vraiment chicoté l'esprit. Y a-t-il une question d'harcèlement, que ce soit psychologique ou physique? Je ne sais pas. Mais ça non plus, je crois pas qu'il a découvert qu'il y avait une famille dans la nuit de mercredi à jeudi. Là. Ça, c'est ma journée. Il faut croire que je dois être dans ma journée paranoïaque. Et là, il y a beaucoup de gens qui me textent au 25-226. Il y a quelqu'un, entre autres, qui me dit « Éric, tu défends la présomption d'innocence pour Nathalie Normando, mais pas pour Jean Charest. Ça n'a pas de bon sens. » Ben, j'ai pas dit qu'il était pas innocent. Là. J'ai juste dit que le fait, justement, de prouver, de démontrer qu'il y avait un intérêt pour aller à la course à la chefferie du Parti conservateur et que l'UPAC a nuit à ses possibilités. Puis tout ce qui est sorti avec Bibeau la semaine passée, ça peut ajouter à sa cause si jamais il décide de partir en guerre juridique contre l'UPAC. S'il décide de les poursuivre pour atteinte à sa réputation. C'est un peu dans ce sens-là où mon intervention, je voulais aller. Là. Fait que ça, en tout cas, regarde, on va continuer à suivre la course à la direction du Parti conservateur. Il reste de moins en moins de joueurs. Là, je sais que demain, Peter McKay, l'ancien ministre, notamment de la Défense nationale, puis il avait même été chef du Parti progressiste conservateur, le dernier, celui qui a fusionné le parti avec Stephen Harper, va annoncer demain en Nouvelle-Écosse, dans son coin, qu'il y va, qu'il plonge. Lui, il annoncera pas qu'il recule, semble-t-il. Lui, il va annoncer qu'il y va. Ça va faire un changement. Une journée dans la semaine, ça va être un qui dit oui plutôt qu'il dise non. Et là, ça met de la pression. J'ai vu que ce matin, là, Gérard Deltel disait que malgré le fait que Jean Charest, Pierre Poilievre et Rona Ambrose n'y vont pas, ça ne change pas sa décision. Il peut dire ça, là, puis ils peuvent tous dire ça. Là. Jason Kenney, je sais que mon ami qui est premier ministre de l'Alberta disait la même chose ce matin, là. Mais la pression sur ces gars-là est de plus en plus forte. Il va falloir qu'il y en ait qui allent. Et ceux qui ont dit jusqu'à maintenant qu'ils n'allaient pas, ils vont être obligés de reconsidérer, je pense. Et j'ai envie de vous demander à vous, les auditeurs, aimeriez-vous ça que Gérard Deltel y aille? Pensez-vous que Gérard devrait y aller? Textez-moi au 25-226. Est-ce que Gérard devrait être candidat ou non? Est-ce qu'il devrait revoir sa décision? À la lumière du fait qu'il y a un paquet de monde qui n'y va pas, puis ses chances, aujourd'hui, là, je pense qu'ils sont 10 fois mieux qu'en début de semaine, au moment où il a annoncé qu'il n'y allait pas. Là. Est-ce qu'il devrait, oui ou non, y aller? On va... je pense que ça va... Ça va relancer le débat. Il y a quelqu'un qui me dit Tasha Carradine. Oui, ça serait le fun que Tasha Carradine y aille. On y en avait parlé d'ailleurs en ondes ici il y a quelques semaines, puis elle avait dit que ça ne l'intéressait pas. Mais peut-être qu'elle va elle aussi changer d'idée. Il y a du monde qui vont se mettre à réfléchir. Là. Oups, à date, là, beaucoup. Hey, mon Dieu, OK, beaucoup de gens qui aimeraient ça que Gérard y aille. Ah, il y a même quelqu'un qui aimerait ça que Jean Charest revoie sa décision. Ah, des gens qui aimeraient ça que moi aussi je me présente. Mais Gérard, beaucoup de gens, ils disent oui. Il y a une personne qui me dit non présentement. Gérard Deltel, il n'est pas assez connu dans l'Ouest. Ça serait une perte de temps. Mais les autres, c'est oui absolument. Mais en même temps, il n'est pas connu dans l'Ouest. Mais est-ce que vous pensez que Andrew Scheer était connu au Québec quand il s'est présenté, vous? Zéro. Il y a même moi, je ne le reconnaissais pas sur la rue. Puis je vais de la politique toute ma vie. Moi, je pense que ça serait un bon cas justement pour se faire connaître. C'est sûr qu'au Québec, il serait connu. Mais c'est justement... dans des courses comme celle-là, là, chaque circonscription est égale. Fait que les 75 comtés du Québec, ils comptent plus que l'Ouest canadien au grand complet. Donc, oubliez jamais ça. Là. C'est pas une course où chaque membre est égal. C'est une course où il y a une pondération en fonction des circonscriptions. OK? Je veux vous parler comme comme dernier sujet d'une lettre ouverte ce matin dans le soleil de Jaggy Singh qui s'auto-proclame anarchiste aujourd'hui. Il avoue qu'il est anarchiste dans le journal et il signe une chronique, un épisode juridique farfelu. Il revient sur sa libération et il dit, puis là je vais citer des bouts de sa lettre parce que c'est capoté. Il dit « Sans doute valait-il mieux avoir l'air incompétent. » Là, il parle de la gang de la ville, puis des juges, puis même du maire de Québec. Là. En auto-sabordant mon procès, que de s'humilier devant un juge et les médias en perdant la cause. Sans doute souhaitait-il, il parle des procureurs puis du système de justice, éviter que le procès dévoile des preuves et des détails qui auraient été embarrassants pour eux. Qu'est-ce qu'il essaie d'insinuer? Puis là, le reste de sa lettre, évidemment, il essaie de se faire passer pour une victime. Il dit qu'il était utilisé comme un trophée de chasse. Puis il finit, là, puis ça, c'est l'affaire qui me dérange le plus dans cette lettre-là de ce matin, puis c'est pour ça que je vais vous en parler. Il termine en disant « Il existe une lutte générationnelle contre le racisme en faveur d'une société inclusive et accueillante au Québec. » Écoutez, là, une lutte générationnelle contre le racisme. Je vous rappelle que ce gars-là, là, il est avec sa gang à manifester parce qu'ils veulent que les gens puissent traverser au chemin Roxham de façon illégale, puis qu'on ferme les yeux, puis qu'il n'y ait plus de frontières. On est loin, loin, loin des luttes pour ou contre le racisme, là. C'est une lutte entre une gauche radicale illégale. Je continue. Il dit, je fais partie de cette lutte collective, là, évidemment, de ceux qui se décrivent antiracistes. Il dit, cet épisode juridique farfelu qui implique le maire, des procureurs et les policiers incompétents fait ressembler la ville de Québec à l'Alabama des années 50. Il compare notre ville à une ville qui faisait de la ségrégation raciale puis qui discriminait contre les Noirs dans les années 50. En fait, il compare notre ville à un État, parce que l'Alabama, c'est un État américain, là. Fait que pour lui, là, on est des suprémacistes blancs. Il ne peut pas être plus insultant que ça pour la ville de Québec. Ça n'a pas de sens qu'ils nous écrivent ça. Il finit en disant « Ce constat confirme, à mon avis, la nécessité d'un mouvement diversifié et populaire pour s'opposer au racisme sous toutes ses formes. » Je ne sais pas quoi penser de ça. Écoutez, ce gars-là, sérieux, là, c'est pas un cave, Jaggy Singh. Là. C'est ça qui est le pire. Là. C'est un gars qui, tu sais, il a quand même réussi là, à niaiser les policiers, puis tout avec son affaire de langue. D'ailleurs, il parle de ça dans sa lettre, là, qu'il n'y avait pas de problème avec son français, puis que 90% du procès s'était déroulé en français, puis il dit qu'il est bilingue, puis qu'il est parfaitement bilingue. Mais son intelligence, il l'utilise à mauvais escient. Il est tellement intoxiqué à une idéologie extrémiste qu'il est incapable de faire quelque chose d'utile pour la société, et il traite la ville de Québec de tout et non. Comme si on avait voulu le lyncher sur la place publique. Comme si on avait voulu le parader comme un trophée de chasse. Pareil comme si on avait pris ses jokes pour du sérieux puis on lui a donné des accusations criminelles. Écoutez, c'est assez pitoyable, toute cette histoire-là. Ceux qui n'ont pas lu ça puis qui veulent s'enrager un peu en ce beau vendredi, vous irez lire ça, ça vaut 100$.